Et nous accueillons Alexandra au 3921. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Là tout de suite maintenant, très bien.
Bon, ouais, c'est bien. On entend une certaine énergie dans bien, ça va bien.
Oui, oui.
Alors, quelles sont les raisons de ce bonheur présent?
Justement, parce que moi j'ai décidé depuis maintenant 5 ans de vivre dans le présent.
Oui.
C'était ça que j'avais envie d'apporter ce soir. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Et je crois que ce moment-là nous invite à vraiment lâcher prise et vivre dans le présent. Ce qui permet du coup d'avoir une énergie et de placer cette énergie dans ce qu'on vit.
Alors,
et pas dans des futurs immédiats.
Alors, qu'entendez-vous par là, Alexandra? Est-ce à dire que cette situation totalement inédite que nous vivons et qui nous pousse à rester chez nous, peut-être nous amène à prendre conscience, à vivre plus au jour le jour, juste pour aujourd'hui, et vivre ce présent plus intensément?
Je pense qu'il y a différents niveaux, une invitation. La première est de prendre conscience déjà d'accepter qu'on n'a pas le contrôle, qu'on n'a pas le contrôle de grand chose en ce moment.
Oui.
Que personne ne sait quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir, que personne ne sait finalement qui va être malade ou pas malade. Donc ça nous invite à effectivement être dans le lâcher, de totalement tout lâcher. Et je sais à quel point c'est pas évident pour pas mal de gens, justement, de ne pas être dans ce contrôle permanent des choses. Et effectivement, un des moyens que j'utilise, c'est effectivement de vivre le moment, l'instant présent de manière intense. Cette fameuse phrase, vivre le moment comme si c'était le dernier.
Mmh.
C'est vraiment se poser là-dessus. Et je crois que c'est, à mon sens, le meilleur moyen pour vivre la situation qu'on vit actuellement.
Est-ce que différents événements de votre vie vous ont amené à un moment à cette réflexion-là?
Oui. Moi, je suis passée par... Alors, c'est pas très original, mais j'ai cumulé, on va dire. je suis d'une nature hyperactive, donc enfant qui avait besoin d'être très occupée, d'occuper toujours son temps. Il est toujours en projection d'eux avec une to-do list énorme, même déjà jeune enfant, adolescente et jeune adulte. Et puis, en 2015, en fait, il y a eu une bascule. J'ai été remerciée du jour au lendemain d'un job, donc j'étais chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement parisien. Et un jour on m'a dit en fait ça va s'arrêter là. Je l'ai pas du tout venu, je l'ai pas vu venir du tout.
Ouais.
Et pour le coup je venais d'avoir mon troisième enfant qui avait quelques mois, j'avais des projets, des ambitions professionnelles et de vie. Et là tout d'un coup voilà, on me dit ça s'arrête là. Et quand on est dans ce type de posture du recruteur en plein pouvoir, on va dire, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans, là, l'ego, il en prend un sacré coup. Donc, ça a été l'étage de l'ego, ce jour-là, qui s'est retrouvé finalement sur le trottoir. Puis en plus, j'ai eu une mise à pied immédiate, donc je me suis retrouvée dehors à me dire, à mon tour, j'ai plus de boulot, quoi. Ça m'était jamais arrivé en 15 ans.
Pour quelle raison, d'ailleurs? Est-ce qu'on vous a donné une raison précise?
Honnêtement, avec du recul aujourd'hui, non, sur le moment, les raisons, elles étaient déguisées, on va dire, les choses telles qu'elles sont. Il y avait une situation, j'arrive dans un cabinet qui était en construction depuis une année, et clairement, les chiffres attendus n'étaient pas là d'un point de vue global. Et puis, on était les uns, et après, moi, j'étais à l'époque, j'étais manager, j'avais dû, effectivement, me séparer de mon équipe. Et moi, en tant que manager, j'ai pas vu le truc venir, quoi. Voilà. Et quand ça a été mon tour, quand ma boss de l'époque m'a dit, Alex, ça va s'arrêter là, c'était d'ailleurs une amie. Donc, j'ai vu à quel point elle était pas du tout à l'aise. Sur le fond, il y avait rien. La forme était violente, mais le fond était creux. Donc, je suis partie la tête haute. J'ai négocié mon départ. Mais c'est vrai que, au-delà de la forme et du fond, de se retrouver effectivement, à l'écoute, en recherche d'emploi, au chômage, à devoir pousser la porte de Pôle emploi, ça m'était jamais arrivé, ça a été très violent, très dur à vivre.
Pourquoi est-ce que ça a été dur à vivre? Pourquoi? Parce que finalement, vous étiez à cette place où vous offriez, vous, du travail.
Justement.
Oui.
Ouais. Justement, moi, je me trouvais du côté du pont où on décide. un peu de la vie, enfin de la pluie du beau temps, oui, des candidats à qui on donne, à qui on donne pas. Alors je caricature parce que bien sûr c'est pas que ça.
Et je sais que la Alexandra d'aujourd'hui a beaucoup changé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Et cette Alexandra d'avant, justement, qui faisait la pluie et le beau temps, qui avait le pouvoir de transformer presque une vie, hein, parce que quand on est chasseur de tête, ça veut dire qu'on chasse pour de gros industries, en tout cas des postes importants. Donc on a un certain pouvoir. Est-ce que ça vous était monté un peu à la tête aussi tout
ça ? Bien sûr. Oui. Ah mais totalement monté à la tête. Alors après moi je pense que j'ai toujours eu une empathie qui a toujours été là et je l'ai toujours fait ce métier avec le cœur et j'aimais vraiment ça. Donc il y avait une partie de moi qui était vraiment dans le sens. Après le sens, bon, j'ai fait pendant 15 ans ce métier, donc le sens au début je l'avais, je l'ai un peu perdu au fil du temps parce que ce métier a aussi beaucoup bougé. Et puis je pense que aussi on change. Donc sur les, on va dire les 5 dernières années, je commençais à manquer de sens et à vraiment à le faire à la façon de combien tu dois faire à la fin de la semaine, combien tu fais à la fin du mois. Et finalement, chaque candidat mis en poste était un chiffre. On va dire les choses telles qu'elles sont. Là, c'était plus, il y avait plus ce sens. Ouais. J'avais eu différents signes qui étaient venus que ce métier était plus fait pour moi et je les ai pas écoutés. Je les ai pas écoutés par peur, par manque de confiance en soi aussi et puis parce qu'effectivement on se sent à une place un peu privilégiée. Et puis c'est des métiers aussi, on est souvent contacté par la concurrence, on est très sollicité, donc on se sent protégé. Et puis on connaît un peu le système, donc on se dit, nous, ça ne nous arrivera pas.
Oui, ouais.
Et puis en fait, ça nous arrive. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien à dire aujourd'hui, que vraiment, ce jour-là, l'ego a pris un bon coup dans la tête. Et là, donc, on m'a obligée à lâcher prise. Et puis, rapidement, en fait, j'ai traversé un burn-out, puisque pour le coup, j'étais déjà en burn-out, mais je ne le savais pas, pour la petite histoire. Donc, quelques semaines après, c'est mon corps qui a lâché. Donc j'ai eu tout un été où j'étais vraiment, j'ai d'ailleurs aucun souvenir aujourd'hui pratiquement de cette période, où j'ai vraiment été
perdu.
Dans le corps, c'était très difficile, complètement perdu. Et puis, j'ai dit, le troisième élément, électrochoc, c'est qu'au mois de décembre la même année, donc je perds ma meilleure amie d'un cancer. Voilà. Et pour le coup...
Quel âge avait-elle ?
Elle avait 46 ans.
D'accord.
Et deux jeunes garçons. Donc on était maman toutes les deux. Alors je dis pas que quand on n'est pas maman c'est pas pareil, mais c'est vrai que moi là tout de suite là il y a eu
prise de conscience sans doute.
Ouais, une prise de conscience. Je veux dire, elle laisse deux jeunes enfants et moi je me souviens précisément, je suis dans l'église et je me souviens précisément du moment où je me dis mais en fait ça aurait pu être moi quoi. Ça aurait pu être moi et c'est elle que j'adorais, qui était vraiment comme. Comme une sœur, c'était quelqu'un qui était en super santé, elle était danseuse, beaucoup de choses pour elle, fumait pas, buvait pas, enfin voilà, la maladie vraiment c'est acharnée. Et ça du coup donne aussi la conscience que finalement nous ne sommes que des êtres humains, que la maladie n'est pas qu'une personne et que finalement ça tient à pas grand chose quoi. Voilà.
Ouais.
Et ce jour-là, il s'est passé, il y a eu vraiment un avant et un après. Voilà. Donc il y a eu, c'est monté crescendo, mais il y a eu vraiment un avant et un après. Et du coup, alors je dis, ça s'est pas fait non plus dans un claquement de doigts, parce que moi après je me suis fait accompagner quand même. Hein, le processus de deuil, il s'est fait à la fois donc comme vous l'avez compris professionnellement parlant,
oui.
Il s'est fait dans ma vie, dans mon corps, dans ma santé, et puis avec cette amie. Donc processus de deuil, je l'ai vraiment vécu les trois en même temps, et ce qui m'a vraiment permis de prendre, on va dire, une juste distance par rapport à ces événements, c'est effectivement voilà, de comprendre qu'il fallait lâcher prise, un, et deux, vivre dans l'instant.
Je pense que votre ami, votre ami vous a fait... c'est comme une sorte de conclusion, en tout cas, une conclusion de la réflexion que vous meniez depuis un moment. Je pense que cet événement-là est venu... dans l'ordre où vous me l'avez rencontré de manière très importante parce que on sent que cet événement-là vous a fait prendre conscience de la valeur de la vie uniquement et sorti de toutes les considérations matérielles que l'on peut créer hein, nous-mêmes et surenchérir alors que la vie tout à coup lorsqu'on est face à la maladie et donc ensuite face à la mort n'y a plus tout ça, c'est tellement futile.
Typiquement, la perte du travail n'a plus la même saveur. Ouais. On prend. Moi, j'avais mis des choses telles qu'elles sont mon corps un peu de côté. J'ai eu 3 enfants. Je me disais que je m'occupais plus vraiment de moi. Enfin, je faisais plus mon sport. Voilà, j'avais mis tout ça un peu de côté. Et puis, c'était que la vie pro, finalement, qui avait pris le dessus. Et je nourrissais mon ego. Hein, c'est ce que je dis. Je nourrissais autre chose que qui j'étais.
Ouais, ouais.
Il a fallu. Alors, la petite histoire, quand même, c'est qu'il y avait eu d'autres. J'avais eu d'autres signes avant, mais que je n'ai pas écouté. Et souvent, ce que je dis, aujourd'hui, j'accompagne, souvent, ce que je dis aux personnes, c'est qu'en fait, il y a plein de signes qui viennent régulièrement.
Quels étaient ces signes, Alexandra ?
Moi, j'ai 3 enfants, 6 grossesses. Donc, j'ai quand même fait des fausses couches avant chaque enfant. Oui. C'est quand même des signes forts. J'ai eu dans un de mes postes, j'ai été face à quelqu'un qui était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un pervers narcissique, donc que j'ai vraiment pris en frontal et j'ai continué.
Votre mari, donc le père des enfants.
Non, au travail, pardon.
Ah, au travail, d'accord.
Au travail, okay. Ouais, c'était une de mes bosses. Et puis voilà, régulièrement dans la vie, il y a eu des épisodes, comme tout le monde, je dirais, qu'on se dit. Voilà, on se dit c'est normal, c'est la vie. Ils passent, on les voit, on leur donne pas la mesure de ce qu'ils sont.
Mmh.
Voilà. Et puis
on encaisse.
C'est ce que j'appelle effectivement la résilience. Quoi, on prend.
Ouais.
Et je dirais souvent lorsque j'explique aux personnes, c'est que le danger, c'est que c'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui, c'est que ça monte toujours un peu crescendo en fait.
Ouais. Et le danger voilà. pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est que le danger, c'est que lorsqu'on est victime de ce type de personne, ça peut durer très très longtemps oui. dans une vie ensuite. Parce que on a tous été victimes à un moment ou un autre, alors tous, je ne sais pas, mais en tout cas, en grande partie, si, je pense qu'on a tous été victimes de personnes qui outrepassaient leur pouvoir, en fait, hein, et qui allaient beaucoup trop loin. Et au final, on s'est beaucoup allongé, on l'a fermé beaucoup hein, devant ce type de personnage. Donc,
oui, moi j'avais 24 ans, c'était mon premier job, je me disais c'est normal quoi.
Mmh. Voilà. Ça fait mal ça, hein. Ça fait mal.
Oui. Et c'est aujourd'hui où je suis capable de la remercier parce que j'ai appris beaucoup de ça avec la maturité, l'expérience. Mais et du coup, je les reconnais maintenant.
Oui. C'est vrai que quand on a eu affaire, une fois à ce type de personnage, on arrive à identifier quels sont les premiers signes pour prendre ses jambes à son cou.
Clairement.
Ouais. Mais bon, il est certain que quand on a 24 ans, bon, la vie reste à faire.
C'est votre boss. Tout le monde lui accorde, parce que c'est souvent des gens qui ont un charisme, à qui on accorde au grand public, ils ont le verbe, voilà. Et puis, c'est ce qui se passe. Parce que vous subissez, ça se passe derrière, quoi. Mm-hmm. La plupart des gens ne le voient pas.
Mais dans ce que vous décrivez, Alexandra, parce qu'on évoque souvent ce terme de pervers narcissique. Et on parle de ces individus comme des individus qui se nourrissent du mal des autres. C'était le cas de cette femme. Elle se nourrissait des blessures qu'elle infligeait aux autres.
Alors elle se nourrissait, ce qui était très pervers. Alors j'ai un peu de mal moi avec ce terme pervers narcissique, mais on va dire que voilà, c'est là où il y avait la perversité, c'est que elle avait un comportement à la fois de mère. Hein, donc elle se positionnait comme une mère. On était nous toute une équipe assez jeune. Elle avait l'âge de nos mères, justement.
Oui, oui.
Et puis derrière, elle pouvait arriver le lendemain et avoir un comportement vraiment très dur, très maltraitant. Voilà. Donc, elle passait d'un état à l'autre. Et on ne pouvait jamais, nous, savoir qui on allait avoir le matin en arrivant au travail. Donc, c'est là où était la perversion, quelque part.
Oui.
Et puis, clairement, aujourd'hui... que je suis en âge d'observer ça, je me dis mais quand on est au travail, on n'a pas à avoir ce comportement. C'était ni ma mère, ni c'était ma boss, quoi, point.
Ah oui,
c'est vrai qu'à 24 ans, et puis clairement, je pense que le manque de confiance que j'avais à l'époque, je subissais parce que voilà, je ne connaissais que ce modèle, finalement.
Bien sûr. Par rapport à l'éducation, sans doute, que vous aviez reçue aussi, qui était sans doute une éducation où la réussite faisait partie de la conception d'une vie réussie, en fait.
Ben oui.
Comme c'est encore beaucoup le cas pour pas mal de gens. Hein.
Exactement. Oui.
Alors, vous vous sortez de tout cela. En fait, revenons au moment où votre ami donc part. Ça provoque chez vous une onde de choc.
Oui. Oui, et moi, ce qui va être, si je peux donner une clé ce soir, ce qui va être vraiment ma petite lanterne dans ce tsunami, ça va être l'hypnose. Donc, je vais être suivie pendant quelques temps par... D'abord, je fais une première expérience, ce que je découvrais plus tard être de l'hypnose spirituelle. Oui. Si on m'avait dit à l'époque, je n'y serais pas allée. À cette époque-là, je croyais en rien du tout. Mais n'empêche que cette expérience-là était vraiment incroyable. C'est vraiment, ça a duré 4 heures. Je pense que ça a duré. Enfin, quoi, elle me dit combien de temps ça a duré. Je ne sais pas, 15 minutes, alors qu'on est resté pratiquement 4 heures. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, surtout l'état dans lequel je ressors de cette expérience, est juste dingue. Et donc.
Qu'est-ce que c'est que l'hypnose spirituelle?
Eh bien, à ce moment-là, elle s'appelle Rachel, et elle va me faire faire un voyage dans mes vies antérieures. Voilà, donc je vais aller faire un parcours de qui j'étais. Alors, honnêtement, hein, quand on y va, elle ne me dit pas que c'est ça que je vais voir. Elle me propose de monter dans une montgolfière, puis dans une soucoupe, et puis on monte, puis elle me demande de décrire ce que je vois, et je vais faire un voyage incroyable. Mais c'est surtout ce que je vais ressentir dans le corps qui va être très très fort. Je vais pleurer, rire, sentir des douleurs à certains endroits dans le corps. Enfin, ça va être une expérience très riche. Et quand je sors de cette expérience, en fait, je comprends que... Bon, elle me dit déjà que je suis très, très réceptive à l'hypnose. Et du coup, elle me conseille que... Parce que pendant la séance, quand même, revient ce processus de deuil que je suis en train de vivre. Et elle me conseille, du coup, d'aller voir un thérapeute pour accélérer un peu le processus.
Oui.
Et donc, moi, je fonctionne un peu comme ça. Un, je vais aller voir un thérapeute. Et deux, je m'inscris en école pour devenir hypnothérapeute. Donc, je vais faire les deux
carrément.
En même temps, en fait. Voilà. Parce que je veux, en fait, ce que je lui dis, c'est que moi, je veux savoir faire ça, quoi. Je veux faire ça toute seule. Voilà. Je veux comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre. Il y a une partie de moi qui croit, une partie qui n'y croit pas vraiment. J'ai besoin de comprendre le mécanisme. Donc, j'ai la chance de tomber sur... Une hypnothérapeute qui va effectivement m'indiquer une école qu'elle a faite, et pendant que qu'elle me suit, ben en même temps je vais suivre les cours, voilà. Et ça a été très très riche, parce que du coup voilà, le processus deuil s'est fait de manière accélérée, quoi.
Mm-hmm. Enfin, quand même, c'est tout de même une démarche un peu commune que vous avez eue là. Parce
c'est
que,
vrai, mais j'ai peu commune en fait. Aussi.
Oui, mais j'entends, mais vous alliez chercher quoi exactement dans cette formation? Parce qu'il y a sans doute une volonté de comprendre les choses, d'aller au bout de vous, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté dans l'apprentissage que vous apprêtez à faire, l'envie aussi de transmettre aux autres?
Oui, alors au moment où je le fais, honnêtement, c'est très égoïste. Bon, clairement, j'ai plus de boulot. Je sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. Et je comprends vite qu'il y a un temps pour moi, là. Et que j'ai toujours bossé, que j'ai jamais pris ce temps. Donc, j'ai de la chance d'avoir un contexte familial qui me permet de le faire. Et donc, à ce moment-là, j'y étais très bien. Cette école, elle propose... une formation sur 6 mois, tout un processus. Et donc, je me donne 6 mois pour faire. Mais vraiment, au début, c'est moi comprendre. Et je me dis, voilà, c'est vraiment un appel. Je ne peux même pas l'expliquer. Vraiment, ça a été un appel du cœur. Alors maintenant, je sais pourquoi. Mais sur le moment, je sens vraiment que ma place, elle est là et que je dois faire ce travail-là avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Oui.
Voilà. Et donc...
Il y a des questions d'intuition, là, quand même.
Oui. Ouais,
beaucoup,
ouais,
même.
Clairement. Oui, beaucoup. Beaucoup. Et en fait, tout c'est à ce moment-là, au moment où je décide de ça, bon, la rencontre avec Rachel, puis l'hypnothérapeute que je vais rencontrer, puis l'école où ils prennent mon dossier, et puis même je me fais financer une partenaire formation par Pôle emploi. Elle n'y croyait pas du tout, ma conseillère à l'époque. Et je lui montre un dossier béton et ça passe. Donc vraiment, j'ai une chance inouïe et je me dis non, mais si ça se fait, c'est que je dois y aller. Et vraiment, la vie a démontré que j'ai bien fait, puisque les gens que je vais rencontrer, tout ce que je vais découvrir en état de transe, ben c'est ce que j'ai construit là en 5 ans. Et tout va se faire là dans ce processus. En fait, pendant ces 6 mois-là, je vais descendre quelque part tout le travail qu'on peut faire en étant accompagné par un coach ou un thérapeute. Moi, je vais tout faire pendant cette école et bien sûr avec cette thérapeute en parallèle. Mais c'était vraiment un appel. C'était ma place à ce moment où je l'ai fait.
Et alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, cette formation, parce que c'est assez mystérieux pour moi, pour tout vous dire.
Ouais.
Une fois, je suis allé voir une hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Bon, et c'est vrai que je n'ai jamais fait appel, mais j'y crois beaucoup. Hein, je veux dire, c'est même pas une question d'y croire. Je sais que c'est une science aujourd'hui qu'on utilise même à l'hôpital pour certaines opérations, donc et qu'aujourd'hui on fait beaucoup de bien en tout cas, on passe par l'hypnose pour beaucoup de choses. Mais là, quand on n'en a jamais fait, qu'est-ce que vous faites au début, avec qui, comment?
Ouais, cette école, elle a vraiment. La volonté de vouloir initier. Je me souviens que dans mes cours, il y avait aussi bien des infirmiers, des médecins, que des gens en reconversion professionnelle. Hein, voilà, qui avaient une âme de thérapeute, qui avaient la volonté d'être aidant. Hein, clairement, on n'est pas là. Voilà. Donc, quand même, on me dirait une bonne moitié de reconvertis et l'autre moitié des gens qui étaient déjà des soignants. Et cette école-là a vraiment vocation à être dans la pratique très rapidement et à nous faire vivre ce que c'est que la transe. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que quand on arrive à rentrer en transe facilement et qu'on goûte à ça et qu'on arrive à rentrer, ça fait de nous aussi des bons thérapeutes, en fait. Voilà. Mmh, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui connaît l'expérience. On peut pas être thérapeute en hypnose si on n'a pas vécu l'expérience.
Donc, on est très vite dans la pratique, c'est ce que vous voulez dire.
Donc, très, très vite. Le premier jour, il nous donne des grandes, alors c'est l'hypnose ericksonienne, il nous donne des grandes, mécanismes de qui Erickson et ce qu'il a fait. Et puis, très vite, on rentre dans la pratique avec des protocoles, avec un objectif. Et très vite, on pratique. Donc, on passe, un coup, on est patient et un coup, on est thérapeute tout de suite. Voilà.
D'accord.
Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Alors, évidemment, si on est là, il n'y a pas de hasard non plus. Je pense qu'il y a un conditionnement inconscient qui fait qu'on est OK. Voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus réceptives que d'autres. Et moi, j'en fais partie. J'ai cette chance-là de partir très vite. Parce que aussi, je pense que mon inconscient, à ce moment-là, avait besoin. C'était salvateur pour moi. Clairement. Mais souvent, ce que j'explique aux personnes, c'est que on fait tous des trans, en fait, toute la journée. C'est un état naturel.
C'est-à-dire, alors dites-nous un peu, expliquez-nous, qu'est-ce qu'une trans, parce que...
Un exemple tout bête, vous êtes en voiture, alors peut-être pas en ce moment, hein.
Non.
On est en voiture, en vélo, et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, on est déjà là. On s'est laissé guider, on a conduit, on ne s'est pas rendu compte qu'on est arrivé à destination. Mais pendant ces quelques secondes-là, on a été en transe. Et en fait, c'est nécessaire pour le mental de couper et de laisser l'inconscient. C'est comme si on avait deux pilotes, en fait, dans l'avion. Et qu'il y a des moments où le cerveau a besoin de se mettre en pause et de laisser l'inconscient rentrer et piloter. Donc, on vit tous un nombre de fois incalculable de cette date transe dans la journée. C'est la phase avant le sommeil. C'est par exemple un enfant à qui on dit t'es dans la lune, reviens. Voilà, ben lui il est parti dans ses pensées. C'est quand on lit un livre et que tout d'un coup on sait plus, on a lu un paragraphe, et tiens, on sait plus ce qu'on était en train de lire.
Ouais, ouais.
Donc voilà. Donc c'est vraiment des moments qu'on vit tous.
Ce sont donc, si je traduis un peu, ce sont des moments où on est dans un autre niveau de conscience, la conscience éveillée, guidée. Par nous-mêmes, mais quelque chose qui ressemble à comme si on laissait cette conscience aller seule, en fait.
Oui, oui, tout à fait.
D'accord.
Ouais. Et c'est un état naturel.
Et c'est un état naturel.
On n'a pas besoin de l'avantage, c'est qu'on a besoin de rien pour être dans cet état-là. Il n'y a pas de psychotrope, il n'y a rien. C'est légal et très agréable.
D'accord.
Donc quand on sait goûter à ça, c'est magique parce qu'effectivement, on peut tous faire de l'auto-hypnose. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est la mode de la méditation. Et c'est quelque part une forme aussi de transe. Hein. C'est un état modifié de conscience.
On va continuer à en parler, Alexandra, si vous le voulez bien. On va marquer une pause pour l'info sur Europe. Et puis je vous retrouve juste après le flash. Vous êtes toujours sur Europe 1. Hein, et c'est votre libre antenne qui vous emmène ce soir en direct jusqu'à 1h du matin, chers amis. Si vous voulez nous joindre, vous connaissez le chemin, 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et puis toujours vos remarques, vos conseils, vos questions au 739 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous échangeons ce soir pour débuter cette émission avec Alexandra. Alexandra qui a vécu une véritable prise de conscience lorsqu'elle perd son boulot de chasseuse de têtes, et puis qu'elle vienne dans sa vie des événements dont le départ de l'une de ses amies touchée par un cancer. Une prise de conscience pour Alexandra qui a nous expliqué qu'elle entame ensuite une formation d'hypnothérapeute. Donc nous parlions de cet état de conscience, donc Alexandra, état de conscience un peu téléguidé par notre esprit, hein, un état de conscience que nous vivons tous. Finalement, en fait, ça vous a mené où tout ça ? Est-ce que cette formation et puis la pratique ensuite vous a encore mené à d'autres prises de conscience ?
Oui, en fait, ça n'a jamais arrêté. Ouais. Ça ne s'arrêtera jamais, je crois.
Je crois que la vie est un peu comme ça, normalement.
Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on comprend que le chemin, entre guillemets, de libération de l'ego, c'est d'être tout le temps en transformation. Voilà, donc, moi, ça fait 5 ans que je transforme tout, en fait. Voilà, tout c'est... Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une chose que j'ai faite qui ne s'est pas transformée en 5 ans.
Génial.
Ouais.
Ça doit faire de vous quelqu'un de très, très différent de la Alexandra d'avant, chasseuse de têtes.
Oui. Mon mari, qui est toujours là après 18 ans, ne reconnaît pas, n'a pas la même personne aujourd'hui face à lui. Et en même temps, je pense que ça a toujours été là, mais voilà, c'était écrasé par le poids du regard de l'extérieur, par les peurs, par voilà, par la culture, par l'éducation. Mais je pense que l'Alexandra d'aujourd'hui a toujours été là, quelque part. Au plus profond de moi, elle a toujours été là.
On parlait de l'éducation tout à l'heure, du modèle.
Ouais.
C'est vrai que nous sommes tous... très influencé par ce modèle que notre société nous impose aux hommes, aux femmes, avec souvent cette culture judéo-chrétienne où il y a tout un tas de signes, de choses, de chemins à suivre et surtout ne pas être à côté. Et si on est à côté, on peut vite être regardé comme quelqu'un qui est un peu hors norme, mais finalement, il faut avoir le courage de ça. Et ça, je voulais vous en parler, parce que on en parle ce soir comme ça, d'une manière légère, mais ça n'a pas dû toujours être facile d'imposer, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous avez dû continuer de subir parfois le regard des autres, le jugement des autres, ceux qui vous avaient connu avant comme chasseuse de têtes, et c'était quand même un gros changement d'un seul coup.
C'est plus mes amis, en fait.
Oui, c'est ça.
Non, mais il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est qu'avec beaucoup d'amour, je regarde l'éducation que j'ai de mes parents et d'une grand-mère extrêmement aimante. Et mes parents m'ont pas, au contraire, m'ont appris la liberté d'être, de penser. J'ai été élevée là-dedans, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Parce que moi j'ai un père qui a mené plusieurs vies dans sa vie, qui était très un entrepreneur dans l'âme, qui était très critiqué d'ailleurs à l'époque. Et je pense que c'était quelqu'un qui aurait dû vivre aujourd'hui sa jeunesse, en fait. Un grand-père aussi, enfin, qui était comme ça, qui a voyagé dans le monde entier alors qu'à l'époque on voyageait pas. Enfin, moi j'ai une histoire familiale où finalement les gens ont toujours été dans cette démarche là. Et pourtant, malgré ça, je me suis, je vais parler pour moi, quand même enfermée dans, dans ce que la société veut de nous. Voilà.
Mais parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel, ce dont vous parlez.
Oui.
C'est quelque chose de l'ordre de sentir, sans doute votre grand-père, votre père, ont senti comme vous à un moment l'appel du souffle de la liberté, du vent de la liberté, parce que ça n'est que ça. Finalement,
oui,
c'est écouter ses intuitions, bien évidemment, mais ses intuitions, elles sont souvent guidées par notre envie de nous libérer, notre envie de liberté, en fait, de faire ce qu'on a envie de faire. Et, et souvent, on est empêché de le faire parce qu'on va dénoter ou parce que la majorité des gens pensent autrement. Et c'est là où, finalement, c'est très compliqué hein, d'arriver à sortir du moule.
En fait, il y a différents niveaux. Il y a nos propres croyances. Est-ce qu'on est capable ou pas capable notre propre jugement, en fait, hein, qui souvent est... Et d'ailleurs, pour moi, il était, je pense, même le plus dur. Hein, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi qui je suis pour rêver de ça.
Oui.
Et puis, la voix de la peur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va penser, je mérite, enfin, que c'est pas là où on m'attend, voilà.
Et vous n'étiez pas seule, vous étiez mère de famille, en plus.
Oui, oui.
Donc il y a aussi tout ça, hein, vous entraînez du monde avec vous.
Ouais. Et puis on est dans un, après est-ce que voilà, la vie a fait que j'ai fait ce métier, donc on est dans un carcan, enfin, voilà, on se met dans des boîtes, comme on peut dire, hein, voilà, on rentre dans une boîte. C'était que moi, déjà par nature, j'ai toujours été un peu ronde. l'école, c'était pas mon truc. Les boîtes, j'ai toujours été celle qui disait tout ce que tout le monde pensait tout bas. Donc, je suis jamais vraiment rentrée dans le système. Mais malgré tout, je forçais le système. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis aux gens qui ont fait des burn-out, souvent, les gens qui font des burn-out, c'est ceux-là. Hein, c'est ceux qui forcent le système, qui rentrent, coup, qui sont des ronds, qui veulent rentrer dans des carrés, voire dans des triangles. Et à force de faire ça, on s'abîme. Donc, moi, voilà, la vie a fait qu'à un moment donné, elle m'a imposé de sortir de ça. Et pour répondre à votre question, vous avez dit un mot très juste, le mot liberté. Un mot, c'est d'accepter d'être libre. Et moi, c'est effectivement mon intuition profonde, qu'aujourd'hui, j'écoute et je n'écoute qu'elle, qui me fait dire, OK, là, t'y vas ou là, t'y vas pas. Et mon étendard, c'est effectivement liberté. Mais ça, c'est... Et donc oui, forcément, ben, les amis que j'avais, pour beaucoup, on s'est perdu de vue. Enfin, la vie a fait qu'on ne se comprend plus. Ce qui est chouette, par contre, c'est que j'ai découvert plein de nouvelles personnes comme moi.
Ouais.
Et j'ai découvert un autre monde. Et voilà, et je pense qu'on est aussi dans une ère là où de plus en plus de personnes sont dans cette volonté de vouloir bouger les systèmes.
Je le pense aussi, je le pense aussi. Enfin.
Les organisations.
Enfin.
Les pouvoirs. Enfin.
Oui.
Enfin, ouais.
Enfin, mais pourquoi? Parce que, bon, il reste encore beaucoup de boulot. Hein, parce que j'avais une discussion cet après-midi avec l'un de mes amis à qui je disais combien... je constatais que les méchants étaient encore... bien présent et occupé la plupart des postes, vous voyez, c'est-à-dire quand je dis les méchants, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées là où elles sont par en écrasant les autres, en biaisant les choses, en mentant, en ayant même une incompétence affirmée, mais qui sont là quand même. Et je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, ce confinement là, cet espace-temps permet à pas mal d'entre nous de prendre le temps justement de penser à tout ça et de se dire est-ce que oui ou non on va continuer à accepter cela comme ça et peut-être arriver à bouger étant épris de liberté. Et la liberté passe aussi par ce type de combat. Alors pourquoi je parlais de cette période là en ce moment, parce qu'on évoquait justement avec cet ami cet après-midi ce moment où finalement beaucoup de gens sont en train de s'apercevoir que on n'a pas besoin de consommer, de surconsommer. Vous voyez, je pense qu'il y a plein de gens qui prennent conscience de ça aujourd'hui, qui n'avaient pas encore pris conscience de ça, qui pensaient que voilà, tout un tas de personnes un peu allumées parler de la surconsommation, parler de la pollution trop, parler du végan... Ils mettaient tout un peu dans le même sac, vous voyez. Et au final, ce moment que nous vivons en ce moment fait que plein de gens le vivent moins mal qu'ils ne l'avaient prévu ce moment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que pas mal de gens pensent, arrivent à mettre à profit ce moment en se disant, mais finalement, la vie de dingue que je menais, là, je suis en train de... On m'oblige à... Finalement, parce qu'on est, on est obligé, là, de marquer le pas. On est obligé de ne plus rien faire, pratiquement, en tout cas, d'être chez nous. Et ça, ça entraîne une obligation de s'occuper, en tout cas, de faire de ce temps, de transformer ce temps en quelque chose de, bah, si on peut le rendre positif, ce temps nourrissant, eh bien, voilà, c'est pas mal. Et j'ai lu, ici et là, sur Internet, tout un tas de réflexions de personnes qui prenaient conscience de leur état. Cet état dont vous parliez tout à l'heure, cet état de, lorsque vous étiez chasseuse de tête, que vous étiez en fait une femme de pouvoir, une femme finalement peut-être matérialiste aussi, parce que on a un peu parlé de l'argent dans tout ça, mais en étant chasseuse de tête, vous gagniez bien votre vie. Le fait d'arrêter tout à coup, en tout cas de faire un autre choix, c'était aussi prendre le risque de moins gagner d'argent, hein, d'être moins confort à ce niveau-là. Bon, ouais. Ce sont de grandes décisions quand on prend conscience que on peut être plus libre, mais que ça passe par ce qu'on pense être des sacrifices au début, mais qui finalement sont des cadeaux qu'on se fait.
Exactement. Ce soir, moi, une de mes filles, je veux parler du mot contentement.
Oui.
Et j'ai envie de s'endormir à 11 ans. Et je lui ai réfléchi à ce mot. Voilà. Dors avec ce mot et demain, on en parle. C'est quoi le contentement? Et c'est quand, en début d'interview, on parlait de l'idée de vivre l'instant présent. C'est vraiment ça. Je vis le moment et je me contente de là, de ce que j'ai là tout de suite.
Quel âge a-t-elle, votre fille?
Elle a 11 ans.
D'accord.
Ouais. Alors, moi, mes enfants sont là-dedans 24 heures sur 24. Hein.
D'accord. Et elle vous a dit quoi? Elle vous a dit quoi?
Bah, en fait, elle s'est couchée en disant, bah, c'est par exemple s'endormir et avoir voilà, un toit, un lit, être en bonne santé, avoir pu manger et avoir maman à côté de moi. Voilà. C'est juste ça, le contentement. Voilà. Et du moment présent. Donc, et encore, je l'invitais à prendre conscience de ça parce qu'elle était déjà en projection de oui, comment, qu'est-ce qu'on fera après, on ira à tel endroit, on fera ci, on fera ça, pourquoi l'autre il a ça, pourquoi il a ci. C'est vrai que quand on est enfant, souvent on est en comparaison,
oui, bien sûr,
de ce qu'ont les autres et de ce qu'on n'a pas. Et je disais, mais Alma, toi, tu vis dans une maison, t'as un jardin, pense à ceux qui sont en appartement. Et regarde-toi ce que t'as. Contente-toi de ce que t'as là, tout de suite. Voilà. Mmh. Et c'est un mot qu'on a un peu oublié, je pense.
Oui, complètement. Et on a surtout oublié tous ceux qui en cette période, sont à 6, 7, dans des espaces très confinés, et pour qui cette période est beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une prise de conscience de plein de choses. En tout cas, j'espère. Mais de ce que je lis ici et là, j'ai cette impression. J'espère être dans le vrai. Mais bon, on verra.
Moi, j'ai la ferme conviction parce que on n'a pas. Enfin, je pense qu'on est nombreux à pas avoir attendu ce virus pour avoir pris conscience. Il y a quand même beaucoup de gens qui œuvrent auprès des individus, dans les entreprises, auprès
depuis un moment.
À titre associatif. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai créé une association et on œuvre vraiment à ça.
Oui, mais vous avez raison, Alexandra. Mais je pense que le positionnement et le travail de ces gens-là va prendre une autre dimension maintenant.
Ah oui. Oui.
Parce que parfois... vous parlez d'initiatives, mais finalement isolées, ou le démarrage d'initiatives dans des entreprises où on commence à prendre conscience que déléguer, faire confiance, s'occuper du bien-être de ses salariés peut avoir un impact sur le rendement que l'on désire, puisqu'on est tout de même dans une société de voilà où le rendement est quelque chose de très important. Bon, il y a toute une prise de conscience actuellement. Sur ces personnes qui menaient des combats qui semblaient être des combats un peu Bon, pas léger, c'est pas ce que je veux dire, mais c'était finalement minoritaire, tout ça. Souhaitons que là, ça serve
mais donc là,
déjà ça.
La prise de conscience, je pense qu'elle était pour beaucoup soit subie, en tout cas individuelle. Là, elle devient collective et si on prend de la hauteur, elle devient mondiale puisque là, tout le monde est en confinement. Il n'y a pas un endroit où on ne vit pas ça, on vit pas la même expérience. Donc là, elle a différents niveaux et c'est là où je pense que c'est super intéressant de regarder comme ça aussi. C'est-à-dire que là, on est tous, quel que soit notre niveau de vie, quel que soit notre métier, quel que soit, voilà, on est tous dans le même bateau là. Et ça nous
Exactement.
Renvoie à ça en fait. Voilà, ça nous renvoie à notre état d'homme, d'être humain. Et comme je disais au début, voilà, on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle. Et la nature, et on voit, moi je regarde pas les infos pour le coup. Hein. Je fais pas partie de ceux qui regardent les infos. Je regarde, je choisis de regarder les bonnes nouvelles. Et ce que ce virus apporte de positif, sans bien sûr, je ne sais pas le déni sur tous les malheurs que ça amène aussi, mais mon énergie, je l'aimais regarder ce que ça transforme en bien, et je constate quand même qu'au niveau de la planète, de l'environnement, des relations entre les gens, il y a quelque chose qui s'est fait, qui est en train de se faire. Donc j'espère, et vraiment, j'ai la foi profonde qu'il y aura un avant, un après, ça ne peut pas être autrement.
Espérons-le, en tout cas, espérons-le. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de témoigner, de vous raconter ce soir sur la libre antenne d'Europe 1. Et puis, je vous dis à bientôt.
Merci Olivier, avec joie.
Au revoir Alexandra.
Au revoir.